Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org. Je suis au Port-Joux avec Bernard et Natacha Monpetit. Un jour, dans un document d'histoire, on a vu que le seigneur du Port-Joux se présentait à la montre de 1481 habillé en archer. Le mot archer, pour vous, finalement, qui êtes archers tous les deux, Bernard.
Oui, on a eu cette surprise en faisant ces recherches de découvrir que le seigneur qui a habité ces lieux, Yvon de Quilidien, était archer. Et l'histoire se répète et nous sommes avec Natacha, nous sommes tous les deux archers aussi. Donc on a eu cette grande découverte et ça nous a incité à aller plus loin dans nos recherches.
Et l'archer, l'arc dans l'histoire, l'archer dans l'histoire.
Alors, dans ces temps-là, hein, puisqu'on se situe dans la guerre de Cent Ans, hein, où les Anglais avaient une suprématie au niveau de l'archerie, c'était un petit peu l'artillerie de l'époque, et au travers de la guerre de Crécy, de Poitiers, d'Azincourt, ils ont eu cette suprématie historique, hein, ils ont dominé la France, et c'est effectivement étonnant que ce seigneur soit archer, parce que c'était pas un instrument très noble à l'époque. Néanmoins, il était utilisé pour la chasse et pour la guerre aussi.
Un instrument efficace malgré tout.
Oui, bien sûr, efficace. Pendant longtemps, on pensait que les flèches d'arc ne perçaient pas les armures, mais les flèches d'arc perçaient bien les armures, de la même manière que les carreaux d'arbalète. Ils avaient des arcs très très puissants, aussi bien en France qu'en Angleterre, et c'était des instruments très efficaces.
Et puis, ils étaient nombreux les archers, ils avançaient en ligne.
Alors, contrairement aux fantassins, ils étaient souvent quand même à poste, hein, puisqu'ils faisaient, comme c'était un petit peu donc ce que je disais, l'artillerie de l'époque, ils faisaient des pluies de flèches sur l'ennemi, et la chevalerie française en a fait les frais, hein, et était largement décimée au travers de ces batailles.
Pendant qu'ils étaient à poste sur les champs de bataille, d'autres étaient à poste aussi, mais à table, Natacha.
Oui, la cuisine au Moyen-Âge nous a aussi interpellés. Enfin, on a aussi cherché à se renseigner sur l'art culinaire au Moyen-Âge parce qu'il est extrêmement significatif de l'histoire des hommes. Quand on voit ce qu'ils mangent, on sait ce qu'ils sont, si on peut dire ça comme ça. Voilà, on a fait des recherches également sur la cuisine au Moyen-Âge. Une cuisine très très particulière parce que très différente selon les périodes. Déjà, le Moyen-Âge s'étend énormément et on a eu des périodes de famine avec peu ou pas de nourriture et d'autres, comme au XIIIe siècle, beaucoup plus propices à l'art culinaire. Et puis surtout, une histoire de la cuisine marquée comme l'histoire par la relation de l'homme avec l'Église, puisque au Moyen-Âge, l'Église a une place très très importante, et avec la hiérarchie. En fait, on peut dire vraiment dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es au Moyen-Âge, parce que ce que les gens mangeaient dépendait de leur statut social, et c'était même la façon dont on mangeait et ce qu'on mangeait, c'était une preuve d'une supériorité, d'une richesse ou au contraire d'une pauvreté.
Certains mangeaient beaucoup.
Alors, effectivement, les puissants, les riches, les seigneurs se devaient de manger beaucoup. Hein. On devait avoir de l'embonpoint pour montrer justement sa richesse et son pouvoir. Et on dressait des tables gigantesques avec des repas, je parle dans les châteaux, hein, et dans les cours essentiellement, des repas qui pouvaient durer jusqu'à 8 heures, avec les entremets qu'on connaît où il y avait de véritables spectacles. Entre les plats et puis des plats extraordinaires, des faisans, des cygnes qui étaient vraiment exposés. On montre ce qu'on mange et on montre des choses magnifiques. On montre les épices, on montre la viande, on montre des plats un peu comme un spectacle en fait. C'est vraiment très significatif.
Et au Port-Joux, eh bien, dès demain, nous vous parlerons de ce qui va se pratiquer, notamment au sein du café culturel. On parlera culture, cuisine peut-être un peu, cuisine culturelle, mais également poésie. C'était Un auteur, une voix avec écrivainbreton.org. Nous recevions Natacha et Bernard Montpetit.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.